Hop là. Alors c'est parti. Erev Tov les Koulam. Et on est reparti dans notre étude du livre de Bereshit. Alors, si je ne me trompe pas, avant qu'on parle un petit peu de Manitou, du personnage, si je ne me trompe pas, on était arrivé au chapitre Lamed Tet. Chapitre Lamed Tet, c'est-à-dire qu'on a terminé, si je ne m'abuse, peut-être je m'abuse, on avait fait l'histoire de Yehuda, d'accord ?
Yep.
D'accord. Donc, on a terminé sur la naissance de l'espoir de l'avenir des enfants de Yehuda et Tamar avec Peretz et Zarach. Et on avait expliqué effectivement que, bah, concrètement, Zerach qui avait le fil rouge, bah, ça n'a pas marché. Et finalement, c'est Peretz qui va devenir la suite, qui va devenir l'espoir de cette dynastie royale messianique. Mais maintenant qu'on a vu cela, maintenant qu'on a vu où on en était, je voudrais que, avant qu'on vienne dans notre étude à proprement parler, dire un petit mot quand même sur le personnage de Manitou. Donc ce soir, c'est la Askara du Rav Yehuda Lohan Ashkenazi. Et le fait que tout le monde l'appelle Manitou, c'est déjà quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte, bon, Manitou, c'est son nom de totem qu'il a reçu aux EI, donc Kol HaKavod, mais mes parents aussi, ils ont un totem. Mes parents, ils étaient aux EI, mes parents, ils s'appellent respectivement, mon père et ma mère, Pluto et Donald. Je ne connais pas beaucoup de gens qui les appellent par leur totem dans le quotidien. Alors, tu vas me dire, il y a des gens qui ont été plus impliqués dans le mouvement que mes parents, quoique mon père est toujours impliqué dans le mouvement, mais Manitou, tout le monde l'appelle Manitou. Et le plus drôle dans l'histoire, c'est quand aujourd'hui, et aujourd'hui la Torah du Rav Ashkenazi devient de plus en plus présente dans le monde israélien, et les gens, ils l'appellent Manitou. C'est, ils ne savent même pas ce que ça veut dire en français, le grand Manitou. Ils ne savent même pas quelle référence, à quoi ça fait référence, mais ils l'appellent Manitou. C'est-à-dire que, et je pense que c'est peut-être ça qui va tracer, pas la destinée, mais le chemin que va prendre le Rav Ashkenazi. Parce que il s'appelle Manitou, il reçoit son totem, parce que très jeune, il prend tout simplement la responsabilité, il prend la responsabilité du peuple juif. C'est-à-dire que c'est très jeune, bon d'abord, il est le fils de rabbin, petit-fils de rabbin, mais je veux dire très très jeune, il va en s'engageant tant dans les EI que dans l'armée, et dans un premier temps, il va très jeune prendre des responsabilités. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est quelque chose de fondamental de prendre conscience que j'ai un rôle à jouer et il n'y a que moi qui puisse jouer ce rôle, donc je vais le jouer. Et donc, si vous voulez, Manitou, quand il va créer l'école d'Orsay, par exemple, et qu'il en devient le directeur et qu'il a 27 ans, je me pose toujours la question, mais qu'est-ce que moi je faisais à 27 ans? Qu'est-ce que nous on faisait à 27 ans? C'est-à-dire que toute sa vie, Manitou a été pas seulement celui qui enseigne, mais celui qui est un dirigeant et qui apprend à enseigner. Et donc, si vous voulez, toute sa Torah est basée là-dessus. Sa Torah est basée sur le fait qu'il est temps de réapprendre à apprendre. De réapprendre à enseigner, à transmettre. Et donc, si on veut pouvoir transmettre, eh ben, il faut qu'on ait les bonnes bases. Et donc, c'est toute la Torah de Manitou, de nous réapprendre les bonnes bases, tout simplement. Son pérouche du Chumash est absolument incroyable parce qu'il vient nous dire plein de choses. Et la folie dans Manitou, c'est que une fois que tu as appris ce qu'il a à nous dire, tu te dis, mais comment j'ai fait pour comprendre autrement avant? En fait, il n'y a pas d'autre solution. C'est forcément ça, le Pérouche. Et ça va être ça, son idée. Redonner au texte son sens premier. Redonner au texte son sens premier. Et je pense que le grand enseignement et le grand héritage du Rav Ashkenazi aujourd'hui, c'est de faire en sorte, et c'est pour ça que ça marche tellement auprès des Israéliens, c'est de faire en sorte que tout le monde se sent concerné par le message de la Torah. Tout le monde peut y trouver...
Est-ce que tout le monde peut se mettre en mute ?
Oui, ça marche aussi.
En mode silence ?
Et on n'est pas obligé de mettre un masque sur le téléphone. Le corona, il ne passe pas par le téléphone. Donc voilà, je disais, le message de Manitou, c'est que tout le monde doit être chayach, doit être rattaché au message de cette Torah. Et c'est en lui redonnant son sens originel qui a été donné à tout le monde, eh bien, qu'on va retrouver cette dimension-là. Donc c'est pour ça que nous, on a la chance de continuer sa tradition, continuer son enseignement au travers du livre de Bereshit qui était le point de départ de toute sa Torah, Sod à Ivri, Sod à Toladot. C'est vraiment le point de départ de l'identité d'Israël. Et quand on pose la question à quoi sert le livre de Bereshit, eh bien, très simplement, il sert, d'après les paroles de Manitou, à nous expliquer c'est qui le Ham Israël. Quelles sont les qualités, quelles sont les variantes, quels sont les objectifs que le peuple juif a à remplir. Maintenant qu'on a dit ça, eh bien, je pense qu'on peut retourner dans l'étude du texte, concrètement. Nous sommes donc dans le chapitre Lamed Tet, verset Aleph. Ok ? Alors, c'est parti. On a vu dans le chapitre Lamed Tet l'histoire de Yehuda. Et cette histoire faisait véritablement une coupure entre ce qu'on avait étudié avant, à savoir toute l'histoire de Yosef qui chute de sa position, si on veut, de petit patron dans la maison de Yaakov et qui va être vendu en Égypte. Et c'est justement là qu'on le retrouve. Ve Yosef urad Mitzrayma. Vaikneu Potifar Seris Paro Sara Tabachim Ish Mitzri Miyad Ishmaelim Asher Oridu Shama. Donc on reprend évidemment directement là où on était au début de notre à la fin du chapitre Lamed Zayin, juste avant de parler de l'histoire de Yehuda. On retourne exactement où on était dans notre point de départ. Alors quelle est l'histoire maintenant de Yosef ? Eh ben, je ne sais qu'une seule chose. Il est en Égypte. Il est l'esclave d'un Messouras. Ça veut dire que, semble-t-il, que pour l'instant, il n'y a pas d'avenir pour Yosef. Messouras, un eunuque, il ne peut rien donner. Et il est sous la domination de Ish Mitzri. Ish Melashan Chashivut, il est sous la tutelle de l'Égypte. Il n'y a pas de présentation plus dramatique que celle-là. C'est pour ça que le verset numéro 2 nous dit « Vaye Hashem et Yosef ». Vei ish matzliach, vei bevet adonav amitzri. C'est-à-dire qu'on a besoin de savoir que Yosef a quand même son lien avec Akadosh Baruch Hu qui est resté. On aurait pu penser que parce qu'il est arrivé en Égypte, c'est terminé. On aurait pu penser que le lien avec Dieu est brisé quand tu arrives Bagola. Vaihi Hashem et Yosef, Veish Matzliach, Vei Bebet Adonav, Amitri. Quel est le résultat de la réussite de l'hébreu Bagalout? Tout d'un coup, on a envie de se l'approprier. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, on a envie de se l'approprier? Eh bien, regardez. Vayar Adonav, qui est Hashem ito, Vechol Hashem Ose, Hashem Matzliach Beyado. וימצא יוסף חן בעיניו, וישרת אותו, ויפקידהו על ביתו, וכל יש לו נתן בידו. פוטיפר, son boulot, c'est d'être le grand intendant de Pharaon. Je ne sais pas ce que ça veut dire en termes de politique actuelle, mais il doit être un des trois plus hauts gradés de l'Égypte. Yosef devient son PDG. C'est-à-dire que si on dit aujourd'hui que Potiphar, c'est le ministre de l'économie, Yosef devient le Mankan Misrad Akalkala. Il devient le directeur de toutes les institutions de Potiphar. Donc, on met cet hébreu qui réussit très très haut. Mais attention, ne t'inquiète pas, il y a toujours quelqu'un au-dessus. Bah, ça, c'est Baruch que c'est un message qui nous est donné à nous. Le juif, Bagalout, il peut réussir. Aval, il ne pourra jamais prendre les rênes. Et ça, on va le voir, ça va être redondant dans toute l'histoire de Yosef. Alors, allons-y, continuons. Vaimsa Yosef ren be'inav, ve'sharet oto, ve'fkidu al beto, ve'chol yeshlo natan be'yado. ויהי מאז יפקיד אותו בביתו, ועל כל אשר יש לו, ויברך השם את בית המצרי בגלל יוסף. ויהי ברכת השם בכל אשר יש לו בבית ובשדה. Abondance énorme due à Yosef. Vous rappelez de cette phrase d'Emmanuel Valls, la France sans les Juifs de France, c'est plus la France. C'est-à-dire que pour l'instant, la France est encore dans sa période « Je veux mes Juifs ». Il y a toujours eu dans les civilisations une période « je veux mes juifs » et ensuite une période « j'en veux plus de mes juifs ». Semble-t-il que là, on est en France dans une période « j'en veux de mes juifs ». On verra comment ça va évoluer. Je ne suis pas très très optimiste sur la suite. Mais bon, comment l'hébreu réagit lorsque le non-hébreu lui dit « mais t'es le meilleur, je te kiffe ». Je veux que tu restes là. Alors venez, on va voir. Vayazov kol asher lo beyad Yosef velo yada ito meuma ki im alechem asher hu ochel vei Yosef yefe toar veyfe mar'e. Potiphar a une confiance absolue en Yosef. Tout ce qu'il a en sa possession, il lui a donné. Sauf Alechem asher hu ochel. Alechem asher hu ochel, rabotai. Mais c'est Alechem asher hu ochel. Alechem asher hu ochel, on va le voir dans quelques psukim, c'est sa femme. Et là, ça nous met tout de suite devant une réalité évidente. Lorsque le juif est Shama, Bechoul, quel est le seul véritable danger? Le seul véritable danger n'est pas tant que ça la persécution. Parce que la persécution nous fait très mal, mais elle nous réunit également et elle nous fait toujours prendre conscience à quel point on est différent. Le vrai danger du juif Bagola, c'est Eshet Potiphar. C'est la femme de Potiphar, on va le dire ça autrement, Zagoya. En d'autres termes, l'assimilation. Yosef y fait tohar vefe mar'e. Il est donc complètement celui qui intéresse. Il réussit. Et donc, il y a une volonté de la puissance ambiante de s'approprier complètement l'identité hébraïque, la faire sienne, mais de ce fait, également de l'annuler complètement. Voilà ce qui se passe ici. Le danger, c'est Eshet Potiphar. Et on va voir cela maintenant. Veïcha advarim ha'ele v'etissa Eshet Adonav et Einav et Yosef v'tomer shichva imi. Et voilà, c'est clair. Réponse de Yosef. Vous savez quelle est la réponse de Yosef? C'est un nom qui veut dire peut-être. Il y a marqué Vayema'en. Vayema'en, Vayomer el Eshet Adonav. Vayema'en, ça veut dire il a hésité. Mais quelle hésitation! Au-dessus du mot Vayema'en, il y a un ta'am de lecture, une indication de lecture qui s'appelle Shalchelet. Je ne sais pas comment on le lit chez les Sfaradim, Mais chez les Ashkenazim, on lit le Shalshelet en disant Vayemaen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Rabotai, Vayemaen, il a énormément hésité. Bon, j'imagine que Eshet Potiphar, elle avait des arguments. Au début, Yosef, il a dû dire non, pas du tout. Mais vous imaginez, yom yom, yom yom, on vous caresse dans le sens du poil. On vous dit que vous êtes le meilleur, on vous dit qu'on vous faire des promotions, on veut vous mettre en avant, on veut vous mettre en truc. Caché. Caché. Vayemaen, vayomer, el eshet adonav. En adoni, lo yadaiti ma babait. וכל אשר יש לו נתן בידי. זה כסף כדי יוסף? Il donne des arguments techniques. Des arguments techniques. מה זאת אומרת? Il dit, écoutez, chère madame, je suis responsable de ce qui se passe dans cette maison. איננו גדול בבית הזה ממני, ולא חסך ממני מאומה, כי אם אותך, באשר את אשתו. C'est-à-dire que le problème de Yosef, il dit non, je ne peux pas faire ça, ça ne se fait pas, ton mari, il me fait confiance. Je n'ai pas compris. Il n'y a pas un autre problème. Et si ton mari m'avait permis, alors c'est bon. Alors il y a là le premier problème de l'hébreu, lorsqu'il est Bechoul, c'est qu'il n'ose pas dire les choses. Lorsqu'on n'ose pas dire les raisons de pourquoi on fait telle ou telle chose ou pourquoi on ne fait pas telle ou telle chose, parce qu'on a peur de la réaction du balabait, c'est le début de la perte de notre identité. Et ça, il faut en être conscient. Je voudrais ici dire les choses très clairement. Et je pense que ça, c'est très important de le dire ce soir, lors de la Hiloula de Manitou. C'est quelque chose qu'il répétait souvent. On est tous français. Enfin, je pense que tous ceux qui m'écoutent là ont un passeport français. Moi aussi. Et on en est très content. Et ça nous a beaucoup servi. Et on n'a rien de mal à dire sur ça. Koltov. Aval. Rabotai. Oui, on est français. Mais comment ça se fait qu'on est devenu français ? On est devenu français, Rabotai, parce qu'il y a de cela 200 ans, il y a eu les 12 questions posées au grand Sanhédrin de Paris. Napoléon veut savoir s'il peut donner la citoyenneté aux Juifs de France. Il va poser les 12 questions au Sanhédrin. Et les réponses vont amener soit l'adhésion au peuple français, soit non. Parmi ces questions, il y en a qui sont terribles. Parce que l'objectif est d'annuler la spécificité juive. Est-ce qu'un juif a le droit de se marier avec la femme de Potiphar ? Bon, ils n'ont pas marqué ça comme ça, ils ont marqué avec une chrétienne. Le fait qu'aujourd'hui on soit avec un passeport français, c'est parce qu'on a répondu oui. C'est-à-dire, il faut bien comprendre qu'on a abandonné une grande partie de notre identité pour pouvoir s'intégrer. Une grande partie de l'assimilation est venue de là. Et aujourd'hui, nous en payons évidemment les conséquences. Bien sûr. En d'autres termes, eh bien, ici, pourquoi Yosef ne dit pas tout simplement « At l'homme et à Israël » ou alors tout simplement « At eshetish veze asour » Pas de dire « Ton mari ne m'a pas permis. Si ton mari m'avait permis, genre, j'aurais été bessadère. » Non. Et comme tu arrives avec des mauvais arguments, eh ben on te les démonte facilement. Et voilà, je vais donner un exemple que vous connaissez tous très bien. Pourquoi on n'a pas le droit de boire le vin d'un goy ? Pourquoi on n'a pas le droit de boire le vin d'un non-juif ? Pas chout ! Alakha, parce que je n'ai pas envie de me marier avec ta fille. Parce que si on commence à boire ensemble, on va être bourré ensemble, on va se rapprocher, machin, et au final, ben, on va créer des alliances. J'ai pas envie. Mais c'est pas ce qu'on dit. Nous, on dit, non, mais tu comprends, le vin, c'est sacré, c'est Kodesh, je dois faire la bénédiction dessus, donc il faut que ce soit fait par un juif. Et à ce moment-là, ben à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tu peux avoir un mec qui vient et qui te dit « Dis-moi exactement ce qu'il faut faire, je le ferai. Je respecterai toutes les conditions de production du vin comme tu veux et je le ferai. » Qu'est-ce que tu vas lui dire après? Donc les amis, Yosef n'ose pas dire les choses. Donc, on va démonter son argument. Comment? Eh bien, tout simplement en lui faisant oublier le fait que Potiphar, il ne sera pas très content. Comment? Ben, il est. Elle revient à la charge tous les jours. Et là, à un moment donné, caché. Vient un jour où Yosef arrive à la maison de Potiphar, il veut faire son boulot. Et Velasot Melarto. Machloket dans le Talmud, est-ce qu'il voulait faire Melarto Mamash? Il voulait genre faire vaquer à ses occupations? Ou est-ce que Melarto Ima? Que ce jour-là, il a décidé Zéou. Si elle me chauffe aujourd'hui, je vais avec elle. Et là, effectivement, ben, ça n'a pas manqué. Elle l'a chauffé. Et là, Yosef, il a craqué. Et il s'est mis avec elle. Sauf que va-t-il passer au baby doll et mort shirva imi? Et là, le Midrash rentre dans le verset et nous dit qu'elle a réussi. Elle l'a effectivement attrapé. Elle l'a effectivement déshabillé. Et ils étaient pratiquement en train de le faire. Sauf qu'à ce moment-là, nous dit le Midrash, Ra'a d'mout diokno shel aviv. Il a vu le visage de son père. Bon, tu m'étonnes que ça le coupe dans son élan, mais c'est pas seulement ça. Et il a compris que si jamais il allait avec elle, Abanim shelo lo yudomim le aviv. Que ses enfants ne ressemblerait plus à son père. En français moderne, s'il avait fait ça, il aurait compris que ses enfants ne seraient plus juifs. Combien on en connaît, ces gens? Combien on en connaît, des gens, Khoutzlaret, qui se sont mariés avec une non-juive et qui te disent « Non, mais t'inquiète pas, hein, j'enverrai mes enfants au Talmud Torah. » Un jour, j'ai dit à un de mes anciens amis, enfin, il est toujours mon ami, mais qui a décidé de se marier avec une non-juive, et il me dit, t'inquiète pas, genre comme si ça allait me réconforter, j'enverrai mes enfants au Talmud Torah. Je lui dis, c'est chaval. Ils vont se faire traiter de sales juifs pour rien. Ils ne sont pas juifs. Tu les as sortis de la chaîne de transmission, c'est terminé. Et c'est exactement de cela qu'on parle. Le danger de la Goya, c'est ça. Va-t-il passer au bébigdo, les morts, shirva imi, va y azov bébigdo, beyada, va y anos, va y tsehachoutza. Finalement, il a réussi à s'en sortir. Et de là, il va être appelé Yosef Hatzadik. Pas au début de son boulot, mais là. Yosef, ou tsadik parce que oulo nafal. Yehuda, nafal. Avalou chazar bitchouva. Kanire que Yehuda, il connaît le sod de la Teshuvah grâce à Tamar. Yosef, s'il tombe, il tombe. Mais Yosef, il n'est pas tombé. Vaitikra la anche beita va tomer lahem, le mort. Reu, evilano ish ivri le tzachik banu. Ba elai, dishkavimi, va ekra bekol gadol. Bon, évidemment, on va accuser Dreyfus. C'est pas shoot. C'est-à-dire, la lecture, elle est évidente. Tu t'as voulu te servir du juif, t'as voulu t'en faire un allié, t'as voulu coucher avec, ce que tu veux. Finalement, au dernier moment, le juif, il a dit « Nein ». Bah, tu lui concoctes une bonne petite trahison. C'est un classique. Donc à ce moment-là, « Vaïk shom'o ki arimoti koli »« Vaïk rave azo bigdo etzli ve'anos ve'etzah chutza »« Vatanach bigdo etzla ad bo adonav el beito » Vas-y, « Vatanach bigdo etzla » C'est peut-être le début de la rédemption, pas de Yosef, il n'a rien fait de mal, mais au niveau de son identité. Pourquoi ? C'était quoi son bigde ? Excusez-moi, c'était quoi son beged ? Bah, c'est sa jupette égyptienne. T'as déjà vu des hiéroglyphes, t'as déjà vu des peintures. Il avait sa jupette égyptienne. Donc, si Osef est bigdo, alors qu'est-ce qu'il lui reste ? Shumdava. Ken. Les Égyptiens n'avaient pas tellement de caleçons. Et donc, en lo shumdavar. Donc, ma nitgala. Disrazal, à ce moment-là, nitgala lo. Il l'avait oublié. Abrit. C'est-à-dire que, ça y est, il reprend conscience de qui il est. Et je vais vous dire, c'est pas très classe de parler de ça. Mais il a dû courir dans sa chambre, sa maison, je sais pas quoi, pour se rhabiller. Mais tout le monde a vu sa brite. C'est-à-dire que tout le monde, tout d'un coup, reprend conscience. C'est pour ça qu'elle l'appelle Ivri. Ish Ivri, bal etzachek banu. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, on va voir que Yosef ne se cache plus. Il ne peut plus se cacher. En vérité, il y a deux façons de réagir lorsque le non-juif a décidé d'arrêter de se la jouer, t'es mon pote, et de dire clairement et officiellement, tu es différent, tu es juif. Il y a deux façons de réagir. Il y a la façon de dire, pas du tout, je me désolidarise complètement du judaïsme. Ça va être la mode, finalement la mode de Dreyfus après l'histoire, le fait qu'il reste dans l'armée française, qu'il en devienne colonel et tout ça. Et t'as pas compris encore ? Ou alors, je ne me cache plus et j'exprime officiellement mon identité. Ça a l'air ? Et donc, voilà ce qui va se passer. Veik shoma Adonav et divrei ishto asher dibra elav lemor kadevarim ele asali avadecha veichar apo. C'est veichar apo. Il est dégoûté. Lama. Mais parce que maintenant, Potiphar, il est obligé de régler le problème. Mais Yosef, d'un autre côté, il lui amène toute la parnassa possible. Donc, quoi faire ? Quoi faire ? Vaikach Adonai Yosef Oto. Vaitenehu el bet asoar makom asher asira melech asurim vayisham bebet asoar. Ma korepo. Yosef est en prison. Yosef est au plus bas. Comment va-t-il réagir ? C'est pas très compliqué. Là où tu peux pas tomber le plus bas, tu ne peux que remonter. En yeush ba'olam klal tzak rabenu bekol gadol. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est là-bas, Yosef il comprend que misham efshar rak la'alot. Asira melech asurim va'yi sham bebet asoar. Va'yi Hashem et Yosef va'yet elav chased va'yiten chino be'einei sar bet asoar. Yosef réussit également là-bas. Et donc très vite, les gens, le directeur de la prison, le ministre des prisons, se rend compte que Yosef vaut mieux l'utiliser plutôt que de la servir. Et donc c'est ce qui se passe. Et on refait une prison dorée pour Yosef. Seulement cette fois, Yosef ne se trompe pas. Et cette fois, il a très bien compris qu'il ne doit plus abandonner son identité. ויתן שר בית הסוהר ביד יוסף את כל האסירים אשר בבית הסוהר ואת כל אשר עושים שם הוא היה עושה. אין שר בית הסוהר רואה את כל מאומה בידו באשר השם איתו ואשר הוא עושה השם מצליח. C'est que tout le monde y trouve son compte, encore une fois. Mais est-ce que Yosef va retomber dans ses travers ? Eh bien non. Et c'est là qu'on nous dit ויהי אחר הדברים האלה חטאו משקה מלך מצרים והאופה לאדוניהם למלך מצרים. Alors, deux secondes. Il y a combien de gens qui ont fauté? On nous dit אחר הדברים האלה חטאו משקה מלך מצרים והאופה לאדוניהם למלך מצרים. Littéralement, le verset nous dit celui qui sert à boire au מלך מצרים et celui qui lui fait la pâtisserie ont fauté devant leur patron et devant le roi de l'Égypte. C'est qui leur patron ? Mais alors, par contre, c'est ce qu'on voit dans le verset suivant. Veiktsov paro al shne sarisav al sara mashkin val sara ofim. On a quatre personnes qui sont dans l'histoire maintenant. Il y a Sara Mashkin et Sara Ofin, c'est-à-dire le ministre de la boisson et le ministre de la pâtisserie, qui vont être emmenés en prison. Mais ce n'est pas eux qui ont commis la faute. Ceux qui ont commis la faute, c'est « Monsieur, je donne à boire » et « Monsieur, je fais du pain ». Mais ces deux-là, la Torah n'en parle pas, parce que ces deux-là, ils ont été massacrés sur le moment. Là, on va s'occuper des responsables. Et donc, les responsables, qu'est-ce qui leur arrive ? Yosef devient donc leur aide de camp. Et là, on va pouvoir voir si Yosef est resté Yosef ou s'il est redevenu Youssouf. ויחלמו חלמו חלום שניהם איש חלומו בלילה אחד איש כפתרון חלומו המשקה והאופה אשר למלך מצרים אשר אסורים בבית הסוהר. Tiens, ils se réappellent à Mashke Véaofé. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus Sar. Ils ont perdu leur titre. Donc comme ils ont perdu leur titre, ils redeviennent ce qu'ils ont été en bas de l'échelle. Mashke Véaofé. Tous les deux, ils ont rêvé. Ah, là, les rêves, ça c'est mon domaine, dit Yosef. Ça, c'est chez moi, les rêves. Je maîtrise les rêves. Az makara. Vayavo alehem Yosef, baboker. Vayarotam veine zoafim. Vayishal et tsarise paro. Asher ito bamishmar bet adonav. Lemor, madoua benechem raim ayom. Vayom ru elav, chalom chalamnu upoter einoto. Vayomer alehem Yosef, alo le Elohim pitronim. Sapruna li. Ça y est. Yosef a montré que maintenant il ne se cachera plus. Il ne vient pas dire « Je suis bon en rêve et Dieu m'aide. » Comme il avait dit « Non, je ne peux pas, ton mari, il ne m'a pas laissé, donc ça serait une grande faute vers Dieu. » Non. Cette fois, Yosef, il commence en disant « L'Elohim pitronim. » Ani lo klum. Donc, comme c'est Dieu et que Dieu il me dit, parlez-moi. C'est-à-dire, on va commencer directement à enseigner d'ivrei Torah bebet asor. Arma kore. Va saper Sara Mashkin et chalomo le Yosef va yomer lo bechalomi veine gefen lefanai u bagefen shlosha sarigim vehi keforachat alta nitza evshilu ashkelotea anavim kos paro beyadi ויקח את הענבים וישחט אותם אל כוס פרו, ויתן את הכוס על כף פרו. Qu'est-ce qu'il voit l'homme du vin? Il voit dans son rêve qu'il va redonner à boire à Pharaon. Ribon kol haolamim. Bemet, il faut être Yosef pour comprendre la signification du rêve. Voilà. Je suis dans une prison, je donnais à boire à Pharaon. Maintenant, je ne donne plus. Je rêve que je vais redonner à boire à Pharaon. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Barour ! Je ne vais pas expliquer pourquoi. C'est tellement évident qu'il n'a pas compris. Ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Peut-être pas aujourd'hui, mais j'y reviendrai. Mais nous, quand on lit le texte, on se dit, mais attends, mais c'est évident. Comment ça se fait qu'il n'a pas compris ? Regardons la suite. ויאמר לו יוסף, זה פתרונו שלושת השריגים, שלושת ימים הם. בעוד שלושה ימים, יישא פרו את ראשך, והשיבך על כנך, ונתת כוס פרו בידו, כמשפט הראשון אשר היית משקהו. Il dit, tu vas, t'inquiète pas, dans trois jours, tu vas redonner à boire à Pharaon. Mais attention, tu ne seras plus Sarah Mashkin. Tu redeviendras comme tu as été au début, en bas de l'échelle, celui qui donne à boire à Pharaon. Tov. Kim zechartani tach, kasher itav lach, ve'asita naim adi chased, ve'izkartani el paro ve'od sedani mibet, ve'min ha'bayit hazeh. Qu'est-ce qu'il fait là, Yosef? Alors, ça veut dire que les deux dans la prison avec lui étaient des prophètes non-juifs. Nachon. Alors, des prophètes, attention, Dieu leur a donné la prophétie par le songe, par le rêve, qui d'après le Rambam est le plus bas degré de la prophétie. Mais tu as raison, c'est également de la prophétie. Nahon. Donc, qu'en irait que ce Sarah Mashkin et Sarah Ofim ne sont pas n'importe qui. Tout à fait. Et donc là, eh bien, Yosef retombe dans ses travers. Eh oui. Il vient d'expliquer au Sarah Mashkin que c'est pas lui, c'est lui. Et la première chose qu'il dit, bon, alors maintenant, toi et de moi. Alors, d'aucuns pourront dire, mais non, mais c'est la Ishtadlout. Il faut bien faire la Ishtadlout. Bien sûr. Mais il faut faire la Ishtadlout après qu'on se soit mis d'accord avec lui. Tu es malade. Si tu es malade, évidemment qu'il faut aller chez le docteur. Après avoir demandé dans ta tefila à Refoua Shelema. Et là, le problème, c'est que il a tout de suite demandé au Sarah Mashkin. Bon, mais deux secondes. Qu'est-ce qu'il lui a dit ? Va dire à Pharaon que quoi ? Ki gunav gunavti me eretz ivrim vegam po lo asiti meuma ki samu oti babor. C'est fou. Il le dit clairement. Il dit, j'ai été volé du pays des Hébreux. Maintenant que les choses soient bien claires, il est en train de demander à un haut fonctionnaire de l'État d'aller voir le représentant, enfin pas le représentant, d'aller voir le président de l'État, qui est la superpuissance mondiale. En gros, il a demandé d'avoir un discours à l'ONU. Et il dit quoi ? Il dit, j'ai été volé du pays des Hébreux. Tu comprends bien qu'il ne parle pas en code, Yosef. Donc, il est en train de dire à Pharaon, j'ai été volé du pays des Hébreux. Tu comprends bien que le pays des Hébreux, il n'est pas appelé comme ça parce qu'il y a Yaakov et ses 11 enfants qui vivent là-bas. Ça veut tout simplement dire que ça a toujours été le pays des Hébreux, depuis Shem ve'Ever. C'est-à-dire que c'est connu dans le monde entier que c'est le pays des Hébreux. C'est juste que les Cananéens, ils les ont dégagés, ils appellent ça maintenant Eretz Kenan. C'est tellement actuel, c'est tellement pareil. C'est-à-dire que Eretz Israël, c'est chez là, nous. Le débat qu'on a, palestinien, mais c'est un débat qui est absurde. Parce que c'est barour, historiquement, c'est barour que c'est à nous. Mais on n'ose pas le dire. Il faut le dire. Gunov, Gunav, Tim, Eretz Ivrim, il dit Yosef, c'est Eretz Ivrim, maintenant on sait. La terre d'Israël, c'est la terre des Juifs, des Koudas, d'où tu le sais ? Mais d'où tu le sais ? Mais parce que mon ami, au moment où les musulmans n'avaient même pas encore pensé à venir au monde, donc les Palestiniens, je t'en parle même pas. Ben quoi ? Ben nous, ça faisait déjà 2000 ans qu'on était à Jérusalem. C'est complètement extraordinaire, extraordinaire. Les choses les plus évidentes, on ne les dit même pas. Et tu veux que je te dise ? Si on ne les dit pas, pourquoi tu veux que les autres, ils le disent ? Pourquoi tu veux que les autres, ils le disent ? J'ai entendu un rayon, je ne sais même pas quand est-ce qu'il est passé en fait ce rayon, entre un professeur de l'université hébraïque de Jérusalem arabe et Yom Tov Kalfon. Qui débattent sur la normalisation des accords entre le Soudan et Israël, machin. Et t'entends le mec, cet arabe palestinien, comme ça il se revendique, il balance une phrase comme ça, qui est passée comme une lettre à la poste, que depuis 67, l'État d'Israël a colonisé et a occupé illégalement la Judée Samarie, machin. Et Yom Tov, il répond pas. Je sais très bien qu'il pense l'inverse. Je le connais, Yom Tov, c'est un tzaddik. Mais pourquoi est-ce qu'on ne dit pas les choses de manière totalement simple ? C'est-à-dire que c'est un mensonge. On l'a dit, aujourd'hui on commence à le dire. Hein, mais je dis, sur le moment, il ne faut pas laisser passer ça. Il faut dire l'eau. L'eau, gadafti kloum. C'était un no man's land. La Jordanie l'avait conquis depuis 19 ans, mais n'avait pas mis sa ribonout. Donc, dans la mesure où la Jordanie l'a conquis illégalement en 48, puisque dans le plan de partage de l'ONU, c'était censé être à Israël, mais qu'elle n'a pas mis sa ribonout, donc ça veut dire que ce n'est même pas la Jordanie. La Palestine, il n'y a même pas de quoi en parler. Donc, Israël ne peut pas conquérir un pays qui n'appartient à personne. Mais ça, ce sont des évidences. Et il faut savoir les dire. On en a marre de se cacher derrière un politically correct qui ne sert à rien. Et très honnêtement, je ne peux que espérer que le Quai d'Orsay, la France, qui voit leurs produits se faire boycotter, eh ben, enfin comprennent que le politically correct avec nos amis musulmans ne sert à rien. Et qu'il est peut-être temps qu'on repasse à des valeurs de base. Comme l'avait dit un de ces journalistes, je crois que c'est égyptien, une interview qui a tourné sur YouTube, sur Facebook, qui a dit « Si déjà il y a quelqu'un qui a colonisé quelqu'un d'autre, c'est les Palestiniens qui ont colonisé les Hébreux. Les Hébreux étaient là bien avant nous. » Et c'est une réalité, c'est une évidence. Non, est-ce que les Palestiniens qui étaient là déjà avant 48 sont des descendants des Juifs qui sont restés depuis le début de la Galoute ? Non. Non, pas du tout. Ce sont des gens qui sont venus de l'Empire Ottoman et d'un peu partout, également de l'Afrique du Nord. Ce n'étaient pas des anciens. Peut-être qu'il y a pauvre Cham, une famille comme ci, comme ça, mais de manière générale, non. Mais Kitsour, Gunov, Gunavti, Meir et Tsaïvrim. C'est-à-dire que d'un côté, j'exprime mon identité, mais de l'autre côté, je n'arrive pas à me rappeler que c'est Ribono Shel Olam d'abord et ensuite la Ishtadlut. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Kigunov dunavti meretz ha'ivrim vegam po lo asiti meuma ki samu oti babor. Vayar sara ofim ki tov patar vayomer el Yosef afani v'chalomi v'hine shlosha salei chori al roshi ubesal ha'elyon mikol ma'achal paro ma'ase ofe v'ha'of ochel otam min asal me'al roshi. Voilà, les choses sont là aussi très claires. Lui aussi prépare trois paniers. Et cette fois, ce n'est pas Pharaon qui va les manger. Donc, c'est clair qu'il ne va pas redonner le pain à Pharaon. Ce sont des oiseaux qui viennent becquer ce qu'il y a dans les paniers. Et Ani Yosef Vayomar, Zepitrono, Shoshet Asalim, Shoshet Yamim, même. Peut-être Shoshet Yamim, Issa Paro et Roshecha, mais Alecha. Aval quoi? Vetala otra la etz, Vachala of et Besarcha, mais Alecha. Les choses sont claires. Les choses sont claires que quoi? Que s'il y en a un qui a la capacité non seulement d'être prophète, mais de faire sienne la prophétie, c'est Yosef. Il faut savoir que l'hébreu est prophète par excellence. L'hébreu descend de Ever. Ever, nous disent nos sages, Rashi reprend, était prophète. En d'autres termes, l'hébreu est prophète et c'est contagieux. C'est contagieux d'être prophète. Quand tu as un prophète autour de toi, eh ben, ça influe sur les autres. D'un coup, Yosef, il arrive en Égypte, boum, tout le monde se met à rêver. C'est le jour de quoi ? Pas de sa naissance, de celui qui l'a fait naître. Et là, petite parenthèse pour nos mamans chéries, le jour de ton anniversaire, ce n'est pas ta fête, c'est la fête de ta mère. En hébreu, Yom Huledet, lo Yom Leda. Ce n'est pas le jour de ta naissance, c'est le jour de celle qui t'a mis au monde. Donc, rappelez-vous quand arrivera votre anniversaire de dire merci à maman. Bekitzur vayi vayom ashlishi yom uledet et paro vayas mishte lechol avadav vayisa et rosh sar hamashkim veet rosh sar haofim betoch avadav vayashev et sar hamashkim el mashkeu vayiten hakos al kaf paro veet sar haofim tala kaasher patar lahem Yosef. Et donc, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Ben, pas shoot. Tout devrait être bien qui finit bien. Le Sar Hamashkin devrait maintenant aller voir Pharaon, lui dire voilà, au fait, dans la prison, il y a un mec, Gunov Gunavti. Velo Zachar Sar Hamashkin et Yosef, Vaishkacheu. Sans rentrer dans ce que nos sages nous disent, que c'est une punition parce que Yosef, il a fait confiance à lui, il n'a pas fait confiance à deux. C'est également, bien, tout simplement une récurrence que quel que soit le bienfait qu'ait pu apporter le peuple juif là où il se trouvait en exil, il y a un moment donné où Vesar Hamashkim lo Zachar et Yosef. Ça arrive dans toutes les civilisations. Qu'à un moment donné, on dit non, les juifs, non. On ne veut plus s'en souvenir. C'est pas shoot. Sauf qu'on termine cette paracha de Vayeshev dans une situation terrible. Ou Velo Zachar et Yosef. Yosef est complètement perdu au fin fond de la prison égyptienne. Et on a vraiment l'impression que rien ne va évoluer. Et cette impression, elle va durer pendant 2 ans. 2 ans où Yosef est au fin fond de la prison et plus rien n'évolue. Tout est figé. Comment les choses vont-elles évoluer ? Eh bien, les amis, ça, c'est ce qu'on va devoir dévoiler ensemble la semaine prochaine, car je termine 9 minutes avant pour la simple raison que j'ai une formation Zoom Taglit qui commence il y a 5 minutes. Oui, vous me direz pourquoi faire une formation Taglit alors que les groupes n'arrivent pas à cause de Monsieur Corona ? Eh bien, parce que Taglit, eux, ils ont foi en l'avenir et dans le changement et dans la fin du corona. Ils se disent que on va pas attendre Vayi Miketz Shnataim Yamim avant que les choses n'évoluent. Ils se disent que les choses vont évoluer bientôt et donc il faut préparer nos guides à retrouver leurs jeunes. Donc je ne sais pas ce que cette formation va apporter, je vous dirai la semaine prochaine. Mais en tout cas, pour nous, eh bien, on remercie évidemment Manitou de nous avoir donné ces enseignements, de nous avoir réappris à lire le texte, pas selon ce que les commentateurs veulent le faire dire, mais selon ce que lui, Akadosh Baruch Hu, a voulu nous dire dès le départ. Comment est-ce que Yosef va sortir de la prison ? Comment est-ce que les choses vont évoluer en Égypte ? Eh bien, les amis, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. À bientôt, à tous.
Merci, merci beaucoup.
Chazak Baruch.